C'est l'heure de la chronique économique de Michel Girard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, le virage Québec Inc. de la Caisse. Parle-moi-en donc.
Ouais, ben c'est ça. C'est qu'à chaque fois que la Caisse, évidemment, dévoile ses résultats financiers, ils mettent toujours l'emphase, et on les comprend, mais toujours l'emphase sur la présence du Québec à l'intérieur, le poids du Québec à l'intérieur de la Caisse. Et puis, chaque année, on nous dit qu'ils sont extraordinaires. Ils ont investi davantage, des milliards de plus dans le Québec Inc.
Ben ouais.
Or, oui, c'est vrai qu'ils investissent davantage, mais ce qu'il faut, il faut toujours relativiser, si l'on veut, ces investissements-là par rapport à la croissance, évidemment, de la Caisse. Alors, voyez, moi, j'ai calculé que quand Michael Sabia est arrivé à titre de PDG de la Caisse, le poids du Québec là, dans le portefeuille de la Caisse, ça représentait 25%. Et puis, à son départ, donc, on sait bien, là, c'était sa dernière année complète là, en 2019. Alors, le poids du Québec dans le portefeuille de la Caisse ne compte plus que pour 19,6%.
Mm-hmm.
Bon, donc, on a perdu du poids. C'est sûr que la Caisse, c'est pas ça qu'elle présente comme statistique.
Ouais.
Bon, non, elle nous dit plutôt que qu'ils ont connu une forte croissance, par exemple, que l'augmentation le poids du Québec, ça a augmenté de 99% au cours de ces 10 années-là. Bien sûr, il oublie de nous dire que le portefeuille de la Caisse, lui, a progressé de 158%. Donc, ce qui fait que cet écart fait en sorte, c'est ça qui explique pourquoi que le Québec, a un poids maintenant nettement inférieur à ce qu'il avait il y a 10 ans. C'est eux qu'il faut toujours relativiser tout ça. C'est bien certain que la Caisse, au fil des 10 dernières années, a connu une forte croissance. C'est nettement diversifié mondialement, puis on peut le comprendre et c'est justifié étant donné que plus tu as d'argent, évidemment, dans ton portefeuille, il faut que tu diversifies tes actifs. Question de te protéger en cas de crise.
Mais Michel, vous connaissez ça tellement mieux que tout le monde, c'est pour ça que votre commentaire est si pertinent, c'est que les gens ici se grattent la tête en se disant, oui, mais le rôle de la Caisse de dépôt, c'est bien sûr d'être le gérer le bas de laine des Québécois, mais c'est aussi d'être un levier économique pour nos entrepreneurs et pour nos grands projets.
Oui, sur la Caisse là-dessus, elle dit, comme elle se donne comme argument, écoutez, on investit d'année en année davantage. Or, tu vois, comme là, en 2019, 3 milliards de plus, c'est bien certain. Alors, sauf que sous Michael Sabia, la Caisse s'est diversifiée mondialement, ce qui se justifie parce que le portefeuille a énormément grimpé, augmenté. Or, mais moi, je pense qu'on aurait pu effectivement investir encore plus dans le Québec-ing qu'on appelle. Parce que la Caisse, elle, quand elle parle du secteur privé au Québec, là, c'est un mélange de tout. Hein. Oui, il y a les entreprises, mais c'est beaucoup l'immobilier qu'elle détient au Québec.
Mm-hmm.
C'est maintenant son REM dans lequel elle investit plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est tout un mélange, soi-disant, de secteur privé. Mais tu sais, le REM, entre nous, le REM, est-ce que c'est privé ou public? Mettons,
exact.
C'est public, là. Ouais, mais pour la Caisse, ça fait partie de son secteur dit privé. Alors, avec le nouveau gouvernement, Legault, c'est sûr que la donne change et que là, on va voir, d'ailleurs, avec la nomination de Charles Lémont, on sent qu'il va y avoir un certain virage qui va se produire où on va investir, en tout cas, théoriquement, là, c'est le vœu, davantage dans les entreprises québécoises. Mais ça ne va pas dire que ça va changer du tout au portefeuille, parce qu'encore faut-il que les placements que tu fais aient de l'allure aussi. Là.
C'est ça. Mais Michel, est-ce que M. Lémont a envoyé des signaux avant-coureurs de son intérêt à être plus un bras de levier important pour Québec Inc.?
Oui. Il a laissé entendre qu'effectivement que la Caisse allait être plus présente, que sa stratégie, tu vois, il s'en vantait que sa stratégie reposait sur trois piliers, accompagner plus d'entreprises québécoises dans leur croissance et leur mondialisation, tu sais, appuyer évidemment l'innovation et la relève, investir dans ce qu'il appelle des projets structurants.
Ben oui.
Quand il parle de projets structurants, il fait des références évidemment au genre de projet comme le REM. Là. Mais Ben, on verra concrètement. Sauf que c'est sûr que on sait bien là que ben, premièrement, il a été nommé par le gouvernement Legault. Deuxièmement, on s'entend que François Legault et puis le ministre Pierre Fitzgibbon sont nettement plus pro-Québec que leurs prédécesseurs.
Oui, et se portent rapidement à la défense de nos entrepreneurs. D'ailleurs, on l'a vu dans la prise de position qu'a pris M. Legault relativement au blocage des trains. Tout de suite, il s'est mis à la défense de nos entrepreneurs et bien sûr du transport en commun.
Bon, oui, ça, alors ça donne une assurance pour nos entreprises québécoises, comme quoi le gouvernement est derrière nos entreprises, et puis qu'en cas de difficulté. Puis là, on l'a vu, les interventions hein, qui sont survenues, mm-hmm. Pas plus tard que la semaine dernière, dans l'histoire de Airbus, évidemment, qui est devenu propriété à hauteur de 75%, ça ne dit pas Airbus, mais la C-Series qui est devenue propriété à 75% de Airbus. Mm-hmm. Puis là, le gouvernement du Québec, on sent bien là qu'il surveille le tout, puis que son 25%, il y tient, puis qu'il intervient dans le dossier. On l'a vu dans Bombardier Transport. En tout cas, bref, oui, on a un gouvernement qui est plus...
Qui veut intervenir. Ben d'ailleurs, Michel, ici, je dois vous demander, est-ce que on voit là actuellement que potentiellement les blocus ferroviaires vont finalement se libérer? Est-ce que les entreprises du Québec, on peut s'attendre à beaucoup de dommages liés à ce blocage-là?
Bon, évidemment, ça fait 2 semaines que ça perdure, ce blocage-là. On sent déjà que les entreprises, évidemment, que ça nuit. Qu'est-ce que tu veux? On est de plus en plus dépendant de ce qui nous vient de l'Ouest canadien. Puis quand on fait référence à l'Ouest canadien, on sait bien que toute notre dépendance face à l'Asie, aux produits mm-hmm. qu'on importe de l'Asie, c'est sûr. Alors évidemment, s'ils arrivent à Vancouver, puis si tu peux pas être transporté au Québec par la voie ferrée, ben t'es fait, hein. Il y a pas de cours d'eau là.
Exact.
Alors donc, c'est sûr que ça fragilise actuellement l'économie québécoise. Bon, regarde, là, c'est bien certain que ça dure un mois, ça va être catastrophique. Mais là, ça fait 2 semaines. Bon, on se croise les doigts pour qu'on règle le conflit. C'est sûr que toute journée qui passe de blocage, ça nuit de plus en plus à nos entreprises parce que l'industrie du camionnage ne peut pas, évidemment, suppléer.
Exact.
C'est là qu'on vient de s'apercevoir que la voie ferrée, c'était très important.
Oui, puis je pense que ce qui a été la plus grande surprise pour tout le monde, lorsqu'on a eu des problèmes liés au train, ça a été le conflit de travail, puis maintenant, c'est le blocage. Ce qui nous frappe, c'est entre autres l'approvisionnement en propane, qui est si crucial pour plusieurs intervenants industriels, dont le secteur agroalimentaire et les élevages.
Oui, c'est ça, puis on est en... Puis oui, puis Dieu sait que c'est important, en plus, question de température, n'est-ce pas, on est l'hiver.
Mm-hmm.
Alors, puis l'hiver au Québec, ben il faut chauffer. Alors, oui, on voit bien là comment ça nous touche directement, puis que ça touche nos entreprises, des secteurs, comme tu le mentionnes, là, évidemment, l'agroalimentaire particulièrement.
Ben ouais.
Alors, mais il y a d'autres pans de l'économie. Écoute, on est tellement dépendant maintenant de ce qui est de l'Asie, au fil des dernières décennies, évidemment, on a augmenté énormément les importations, puis là, ben, on est cas parce que les produits se rendent. Non seulement on est frappé, évidemment, mondialement par le coronavirus, mais en plus, on est doublement frappé puisqu'on a le blocus ferroviaire qui nous nuit considérablement.
C'est là qu'on voit qu'on n'est pas toujours au courant de tout, hein. Là-dessus, on va falloir qu'on se laisse, mais l'alimentation en propane est probablement une des grandes surprises, le fait qu'à quel point c'est tellement nécessaire pour nos éleveurs. Entre autres. Heureusement, la mère nature est de notre bord, fait pas trop froid. Fait que, ben, merci beaucoup, Michel.
Pour la journée. Pour la journée, mais ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer,
exact.
Si ça n'est pas froid, là.
C'est ça. Ben, bon, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup pour ta chronique. À bientôt. Alors, on s'en va à la pause. Et puis, restez avec nous.